Vous écoutez, on lit pour vous.
Des séjours plus longs en centre d'hébergement, faute de logement. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 25 mars 2024 dans Le Devoir. En 3 ans, la durée moyenne de séjour des 43 établissements du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales a bondi de près de 20%. Une fois prête à quitter ces centres, des usagères se heurtent notamment au manque de logements abordables. Selon l'organisme, la durée moyenne de séjour dans ces foyers d'urgence, qui reçoivent celles qui quittent un milieu violent, est passée de 32 jours en 2019-2020 à 38 en 2022-2023 au Québec. Ça nous dit que la situation de celles qu'on accueille est désormais plus complexe, souligne Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement. Si des femmes doivent demeurer plus longtemps en centre d'hébergement, c'est notamment en raison de la crise du logement, soutient Mme Riendeau. Elles peinent à se trouver un endroit abordable où aller habiter, explique-t-elle, et ce, même dans des régions où il n'y avait pas de problème avant. En 2022-2023, les foyers membres du regroupement ont accueilli en tout 3269 femmes. Quand ces dernières sont prêtes à quitter nos maisons, mais qu'elles sont obligées de rester parce qu'elles n'ont pas les moyens de se relocaliser, ça veut dire qu'elles ne libèrent pas de place pour d'autres qui en ont besoin, relève Louise Riendeau. 17 refus par jour. Il arrive donc souvent que les centres d'hébergement soient pleins, affirme Claudine Thibaudeau, responsable de la formation et du soutien clinique à SOS Violence Conjugale. Cette ligne dirige les femmes qui la contactent vers l'un des établissements d'urgence pouvant les recevoir. La province en compte une centaine en tout. Or, du 1er janvier au 11 mars 2024, l'organisme a dû refuser environ 17 demandes d'hébergement par jour, se désole Mme Thibaudeau. Le manque de place dans les maisons est en cause, explique-t-elle. Par exemple, si j'ai un appel d'une Montréalaise qui souhaite être accueillie dans un foyer, mais que l'endroit que j'ai de plus proche à lui proposer est à Trois-Rivières, il y a de fortes chances qu'elle dise non. 38 jours. C'était la durée moyenne des séjours en foyer d'urgence pour femmes en 2022-2023 au Québec. 2 ans plus tôt, cette durée était de 32 jours. Chaque refus est un échec, déplore Claudine Thibaudeau. On travaille fort dans notre société pour sensibiliser les gens à détecter la violence conjugale. On les informe qu'il y a de l'aide et qu'ils peuvent nous téléphoner. Puis là, quand on nous appelle, on est forcé de répondre « Je suis désolé, mais je n'ai pas de place ». Mais une victime qui nous demande d'être hébergée, c'est le dernier recours. C'est toujours une urgence. De nouvelles unités doivent donc être créées dans ces établissements afin de pouvoir accueillir toutes celles qui en ont besoin, souligne Mme Thibaudeau. Ça fait des années que notre organisme sonne l'alarme et qu'on dit qu'il manque de place. C'est de plus en plus difficile. Il faut aussi pouvoir faciliter le départ de celles qui sont prêtes à quitter les centres d'hébergement, affirme Annick Brazo, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Souvent, les mères qui ont plusieurs enfants peinent à se reloger ailleurs, dit-elle. Ce sont des dossiers dans lesquels ça nous prend plus de temps à avoir des réponses pour des logements. On dirait que la vie est faite pour des familles qui ont besoin de 2 ou 3 chambres maximum. C'était « Des séjours plus longs en centre d'hébergement faute de logement », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 25 mars 2024 dans Le Devoir.
Résoudre le difficile casse-tête juridique de l'IA, un dossier de Marc Tison, paru le 27 avril 2024 dans La Presse. Les entreprises qui ont l'intelligence artificielle, IA, en tête, doivent composer avec un casse-tête juridique dont les pièces ne sont pas toutes achevées. elles doivent néanmoins s'y attaquer. Constat et solution. Entraîner ses muscles juridiques. L'intelligence artificielle, IA, des masses de données, très souvent personnelles ou privées, qui sont avalées, analysées, combinées et régurgitées sous de nouvelles formes, avec une agrégation et des objectifs généralement obscurs. Trois adjectifs ici, personnel, nouvel et obscur. Et trois préoccupations. Les données personnelles sont-elles protégées? Les nouvelles formes violent-elles la protection intellectuelle ou en jouissent-elles? Qui est responsable lorsqu'une solution d'IA prend une décision préjudiciable? Ce ne sont là que quelques-uns des enjeux. L'IA entraîne des risques d'affaires, des risques réputationnels, des risques juridiques, énumère Maître Paul Gagnon, l'un des deux co-leaders technologie et intelligence artificielle chez BCF Avocats d'affaires. Un bel exemple qui démontre comment les trois peuvent arriver tous en même temps, les chatbots internes, qui sont très populaires, ajoute son collègue Micha Benjamin. Ce que d'aucuns appellent en français un agent conversationnel ou un dialogueur. On prend ChatGPT, poursuit Micha Benjamin, on le met à l'interne, on l'expose à nos données. Si je travaille dans une firme de génie conseil et je veux savoir comment on règle un problème quelconque, plutôt que d'aller parler à trois collègues, je peux le demander au chatbot. L'agent conversationnel produira un sommaire de l'information déjà détenue par l'entreprise, fera des liens avec des documents pertinents au sujet, nommera peut-être des personnes qui détiennent une expertise dans le domaine. Très utile. Mais si on n'a pas bien balisé la gouvernance de la chose et qu'on n'a pas prévu notre projet en conséquence, je pourrais aussi lui demander quel est le salaire de mon collègue d'en face ou qui a été réprimandé par les RH. Sur le plan juridique, en matière de protection de la vie privée, on peut voir les enjeux. Le droit actuel. Car l'intelligence artificielle n'est pas apparue dans une société dépourvue de garde-fous. Il y a plein de lois existantes qui donnent un cadre juridique à l'intelligence artificielle avant même qu'on adopte les lois qui seront spécifiques à l'IA, rappelle Maître Éric Lavallée, responsable du laboratoire juridique LAVRI, sur l'intelligence artificielle. On avait déjà au Québec la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui vient encadrer, jusqu'à un certain point, l'intelligence artificielle ou son usage par les entreprises. Le droit du travail est lui aussi interpellé. Si on utilise un outil d'IA pour des décisions d'embauche ou des décisions disciplinaires, puis on réalise ensuite qu'il y a un biais là-dedans, ce sont les lois existantes qui vont s'appliquer à ça, et on n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour nous dire qu'on va être responsable, soulève Micha Benjamin. Par ailleurs, l'émergence explosive de l'intelligence artificielle générative, capable de créer du texte ou des images, par exemple, soulève de nouveaux enjeux à l'égard de la propriété intellectuelle. On peut utiliser l'IA comme outil selon les lois en vigueur et créer quelque chose dont on est quand même propriétaire. Mais il se pourrait qu'on utilise l'IA pour inventer des choses dont on ne sera pas propriétaire à 100% selon l'entente avec celui qui met l'IA à ta disposition, rappelle Micha Benjamin. Les nouveaux cadres juridiques. Pour affronter ces défis inédits, de nouveaux cadres juridiques sont en construction. Le Parlement européen a adopté en mars dernier ce qui se veut la première loi sur l'intelligence artificielle au monde, qui veut garantir la sécurité et le respect des droits fondamentaux tout en encourageant l'innovation. Dans certains contextes, et selon les risques en cause, des obligations sont créées. Par exemple, de divulgation au public ou encore d'analyse des risques, décrit Paul Gagnon. Au Canada, le projet de loi C-27, qui est à l'étude en ce moment, vient sensiblement présenter le même genre d'analyse de risque par rapport au développement de systèmes d'intelligence artificielle. Ces cadres juridiques, existants et nouveaux, tracent des normes de pratique et des précautions que les entreprises devraient dès maintenant introduire dans leur usage de l'IA. On est là justement pour aider les gens à commencer à bâtir ce muscle, comment bien gérer les projets, comment faire la gouvernance d'IA dans l'entreprise en amont, pour qu'ils soient bien développés quand les lois seront applicables, expose Micha Benjamin. Les entreprises peuvent déjà se mettre à l'entraînement. Vous écoutez « Résoudre le difficile casse-tête juridique de l'IA », un dossier de Marc Tison, paru le 27 avril 2024 dans la presse. Le mouvant puzzle juridique. C'est peut-être le plus clair signal des enjeux croissants de l'intelligence artificielle, IA, dans les entreprises, les cabinets d'avocats d'affaires s'en mêlent. L'important cabinet québécois BCF, fort de plus de 520 employés, a annoncé au début d'avril l'embauche de 2 jeunes avocats qui constituent son équipe de choc en matière d'IA. Paul Gagnon et Micha Benjamin, tous deux associés, portent chez BCF l'étiquette de co-leader technologie et intelligence artificielle après 3 années dans l'équipe juridique interne de la techno montréalaise Element AI. Ça nous a exposés à beaucoup d'apprentissages et beaucoup de contacts avec des gens aussi, sinon plus curieux que nous, décrit Paul Gagnon dans une entrevue vidéo commune avec son collègue Micha Benjamin, tous deux souriants et enthousiastes. Ça a été très amusant d'être très souvent les gens les plus niaiseux à l'intérieur d'une pièce, rigole l'avocat. En l'absence de normes de pratique reconnues à l'égard de l'intelligence artificielle, il leur a fallu élaborer leur propre barème pour guider les relations contractuelles de la bourgeonnante entreprise avec ses clients et partenaires commerciaux. Il n'y avait pas de cadre juridique qui s'appliquait directement à l'IA, souligne Micha Benjamin. Mais il reste qu'il y a un cadre législatif existant qu'il faut quand même appliquer à une nouvelle technologie, même si ça n'a pas été pensé avec cette technologie en tête. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Oui, plusieurs nouvelles lois s'en viennent, qui vont directement s'appliquer à l'IA, mais on a aussi toutes les lois existantes que, de plus en plus, les gouvernements sont en train d'appliquer à l'IA. On s'est joint au cabinet BCF justement pour bâtir cette expertise-là parce que c'est un moment qui est vraiment charnière pour le genre d'approche qu'on propose, c'est-à-dire de penser l'IA dans une perspective de gestion de risque, mais également dans une perspective de gouvernance, nous dit Maître Paul Gagnon. Un laboratoire juridique. Ils ne sont pas les seuls. La plupart des grands cabinets d'affaires ont constitué une phalange en intelligence artificielle. Borden Ladner Gervais, pour ne prendre que cet exemple, se targue d'être le cabinet juridique de référence au Canada en matière d'intelligence artificielle. Au Québec, le cabinet Lavery avait mis sur pied dès 2018 son laboratoire juridique sur l'intelligence artificielle. L'équipe s'intéresse à rendre des services aux clients, donc mieux comprendre leurs besoins et aussi à nos besoins internes, à la manière dont on va utiliser cette technologie au sein même de notre cabinet, décrit son responsable, Maître Éric Lavallée. Son premier livre blanc, produit la même année, décrivait déjà en 67 pages les principaux enjeux juridiques de l'intelligence artificielle, de la propriété intellectuelle à la cybersécurité. On s'attend à une évolution des lois, à un meilleur encadrement des solutions d'intelligence artificielle, avec des exigences peut-être de transparence face au public, observe Éric Lavallée. C'est certainement des choses que les entreprises doivent être en mesure de voir venir. De nouvelles pièces. En effet, les pièces continuent de s'ajouter au puzzle juridique de l'IA. Au Canada, le projet de loi C-27, déposé en juin 2022, édicte dans sa troisième partie la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui veut prémunir la population contre les dérapages des systèmes d'IA, notamment les risques de préjudices physiques ou psychologiques ou de résultats biaisés ayant des effets négatifs sur les individus. Après la deuxième lecture et quelques amendements suscités par les critiques, le projet de loi est toujours étudié par le Comité permanent de l'industrie et de la technologie du Parlement. Entre-temps, l'Europe a pris l'Amérique du Nord de vitesse. Le 13 mars dernier, les députés de l'Union européenne ont adopté un ambitieux cadre réglementaire qui entend protéger les citoyens et la société contre les risques de l'IA sans décourager l'innovation. Il établit des obligations pour les systèmes d'IA en fonction de leurs risques potentiels, il interdit certaines applications et il impose des exigences de transparence. Le dos au mur. Les entreprises québécoises s'en préoccupent-elles? La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, FCEI, qui sonde régulièrement ses membres sur les sujets les plus variés, n'a pas encore recueilli de données sur l'utilisation et l'impact de l'IA chez les PME. Mais c'est quelque chose que nous allons mettre sur notre liste d'idées de sondage à court terme, assure Simon Gaudreau, économiste en chef et vice-président recherche à la FCEI. Même les associations d'entreprises composent avec l'IA. Notre service des ressources aux entreprises utilise depuis quelque temps déjà un logiciel qui s'appelle BlueJay, qui fait de la recherche de décisions judiciaires portant sur des questions de fiscalité et de droit du travail, indique Simon Gaudreau. Le logiciel, qui est basé sur l'intelligence artificielle, établit ensuite les liens entre ces décisions et les faits que nos membres vont nous relater. Son équipe de conseillers aux entreprises a jusqu'ici rédigé près de 1000 rapports BlueJay à la demande des chefs de PME membres de la FCEI. L'outil illustre le fait que l'intelligence artificielle et ses outils sont appelés à prendre de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises, observe l'économiste, qui les invite à être prudentes, mais proactives. Les entreprises et les PME pourraient bénéficier d'une réflexion là-dessus avant qu'elles soient trop mises le dos au mur. Plus elles attendront, plus le puzzle sera difficile à résoudre. Vous écoutez Résoudre le difficile casse-tête juridique de l'IA, un dossier de Marc Tison, paru le 27 avril 2024 dans la presse. Un programme d'entraînement en 10 étapes. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer aux enjeux juridiques de l'IA? Voici un petit programme en 10 étapes basé sur l'expérience de nos experts juristes. 1. Se cultiver en matière de technologie. La première étape, c'est la compréhension de la technologie, avance Éric Lavallée du cabinet Lavery. Quand on parle d'intelligence artificielle, il s'agit d'une grande famille de technologies qui n'utilisent pas le même genre de données ni les mêmes méthodes dans certains cas. Tout n'est pas égal et tout n'a pas les mêmes conséquences sur le plan juridique. Il faut donc que les dirigeants se cultivent et acquièrent les compétences pour comprendre les technologies qui seront utilisées au sein de leur entreprise ou dans leur domaine, comprendre ce qu'elles font et comprendre quels renseignements elles manipulent. 2. Comprendre les enjeux juridiques. Pour éviter les risques, une fois qu'on a compris comment fonctionne la technologie, il faut essayer de comprendre les enjeux juridiques, énonce encore Éric Lavallée. Par exemple, si on a des renseignements personnels qui sont utilisés ou transmis à une plateforme d'intelligence artificielle, il faut comprendre comment ces renseignements vont être protégés. Aussi difficile et imprécis que l'exercice puisse être, il faut essayer de voir où sont les risques pour l'entreprise et les jauger, avise l'avocat. Est-ce qu'on va manipuler des secrets commerciaux de partenaires d'affaires, par exemple? Le cas échéant, qu'est-ce qu'on a comme cadre contractuel qui vient nous limiter dans l'usage qu'on peut en faire? Toute cette réflexion doit se bâtir au sein de l'entreprise en ayant les compétences nécessaires. 3. Une bonne hygiène des données. Dès le départ, l'entreprise doit instaurer ce que Micha Benjamin, chez BCF, appelle des pratiques de données avec une bonne hygiène. Quand on commence à récolter de la donnée, il faut la classifier d'une bonne manière, l'entreposer d'une bonne manière. Il faut penser à toutes les limitations qui s'y appliquent. Le moment venu, elles seront prêtes à subir l'épreuve de l'intelligence artificielle. 4. Se donner un cadre de gouvernance. Autre mesure très importante, il faut se doter d'un cadre de gouvernance en matière de renseignements sensibles, que ce soit les renseignements personnels ou les secrets commerciaux, soutient Éric Lavallée. Ce cadre répondra aux questions essentielles. Quelles informations détient-on au sein de notre entreprise? Combien de temps les conserve-t-on? À qui donne-t-on accès à ces renseignements? Et parfois, cet exercice nous permet de mieux identifier les zones à risque et de faire les meilleurs choix lorsqu'on va devoir acquérir une plateforme technologique. 5. Cerner rapidement les risques. Chez BCF, les interventions dans le cadre d'un projet d'IA doivent être précoces. On aime intervenir dès le début pour cadrer quel système on va utiliser, avec quel partenaire on va faire affaire, quel type de données on va utiliser, décrit Micha Benjamin. Il s'agit de cerner les risques dès le début, puis de faire une analyse de risque à chaque étape. De qui a-t-on besoin pour passer à la prochaine étape? Qui va prendre ces décisions? La recette s'applique à toutes les entreprises mêlées de près ou de loin à l'IA, mais il est rare qu'un seul chef soit au fourneau. Il n'y a pas un type de profil qui peut faire ça tout seul, dit-il. Ça prend des avocats, ça prend des technologues, ça prend quelqu'un qui parle pour les utilisateurs. Ces ressources seront réunies pour créer un plan de match où on a des points de contact à chaque décision importante. 6. S'adapter à sa taille. Cette réflexion doit également être menée dans les entreprises modestes, voire individuelles. Elle va être proportionnée à la taille de l'entreprise, recommande Éric Lavallée. Mais ça implique que les entrepreneurs, même dans les petites entreprises qui ne sont pas dans le domaine des technologies, doivent se cultiver. Et à cet égard, l'Internet est rempli d'informations très intéressantes sur l'intelligence artificielle. 7. Se préparer au nouveau cadre juridique. Même s'ils ne sont pas tous ou entièrement en place, les entreprises doivent déjà se préparer au nouveau cadre juridique entourant l'IA. Quand on est dans un projet de développement d'une plateforme d'intelligence artificielle, il est important de bien documenter ce qu'on a fait, soutient Éric Lavallée. Par exemple, si on parle d'un modèle de langage, sur quelle source l'a-t-on entraîné? Car les cadres réglementaires qui s'en viennent vont souvent exiger une certaine transparence. Il faudra être en mesure de démontrer ce qu'on a fait pour protéger le public, pour s'assurer que le résultat est exempt de biais systémiques, que l'outil ne va pas causer de discrimination envers les minorités. Ces préoccupations doivent être présentes dès la conception d'un outil d'intelligence artificielle ou dès qu'on songe à son adoption. 8. Au moins essayer. Les pénalités prévues dans la loi européenne peuvent aller jusqu'à certains pourcentages des revenus mondiaux. Ce n'est pas une tape sur la main, indique Micha Benjamin. Les entreprises exportatrices de biens ou services touchés par l'IA devraient au moins commencer à s'y conformer. Je pense qu'il y aura une approche qui sera très différente pour ce qui est de la mise en vigueur si on fait la plupart des bonnes choses, même si ce n'est pas à 100% par comparaison à ceux qui n'essaient même pas de faire ce processus de gestion de risque. Il faut au moins commencer à bâtir ce muscle. 9. Une veille. On le voit, les lois et règlements tentent de suivre les progrès fulgurants de l'IA. Je pense qu'une entreprise qui songe à utiliser une solution d'intelligence artificielle devrait mettre en place une veille législative, si on veut, c'est-à-dire de regarder quelles sont les évolutions des lois, avises et réclavalées. Et ça n'a pas besoin d'être très formel, mais d'avoir au moins une personne qui est responsable de ce suivi. 10. Je dirais qu'à travers tout ça, il ne faut pas que les gens aient peur de consulter des avocats, prononce sans trop de surprise Maître Éric Lavallée. Leur parler au moment opportun, c'est-à-dire tôt, permet parfois d'éviter des problèmes qui surviennent lorsqu'ils arrivent trop tard dans des déploiements de solutions informatiques. C'était « Résoudre le difficile casse-tête juridique de l'IA », un dossier de Marc Tison, paru le 27 avril 2024 dans la presse.